VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du mercredi 3 février 2016. À la une ce soir.
Violence à Bujumbura, bilan contradictoire. En début de soirée, un mort selon le maire de la cité par l'AFP, mais huit blessés seulement selon la police contactée par notre correspondant.
Ces derniers jours, le centre-ville était resté relativement calme, sauf des attaques sporadiques qui emportaient des vies humaines dans les quartiers dits contestataires.
Ouverture à Kinshasa du nouveau procès de l'ancien chef de guerre congolais Germain Katanga, récemment libéré par la CPI.
Comment aider les jeunes à résister aux tentations de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun ?
Tout le monde peut s'aider si vous êtes en chômage et qu'on vient vous proposer 2-3 millions. Vous allez le faire, ça c'est évident.
Un entrepreneur a choisi de leur offrir une formation en informatique.
Migration en Europe, l'OIM et l'UNICEF tirent une fois de plus la sonnette d'alarme.
Pour la première fois depuis son accession à la Maison-Blanche, Barack Obama visite une mosquée aux États-Unis.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Nouvelle violence dans la capitale du Burundi. Des jets de grenades font au moins 8 blessés selon la police qui a opéré 2 arrestations. En revanche, le maire de Bujumbura, Freddy Bonimba, qui cite l'AFP, fait état d'au moins un mort. 3 grenades ont explosé à la mi-journée en plein centre de Bujumbura. Parmi les sites visés, les bureaux de la poste et des télécommunications. Plus de précisions avec notre correspondant Christophe Kourounziza.
Sur l'avenue Patrice Lumumba, au niveau de la poste centrale de Bujumbura, plusieurs policiers militaires armés jusqu'aux dents quadrillent un petit périmètre où une grenade a explosé ce mercredi près de la société des télécommunications Lumitel. Plusieurs curieux sont tenus à l'écart, mais la tension est palpable. Une voiture de marque Hilux vient de transporter 4 blessés par une grenade qui a explosé sur les vitres de la société des télécommunications Lumitel. D'après les témoignages de la police sur place, le ou les malfaiteurs auraient lancé des grenades à partir du bâtiment abritant la société Lumitel, une information à confirmer. Mais au moment où les policiers étaient en train de chercher les criminels, une autre grenade a été lancée à une centaine de mètres plus loin, près du parking des véhicules de transport vers le sud de la capitale, créant une panique au sein de la population. Ces derniers jours, le centre-ville était resté relativement calme, sauf des attaques sporadiques qui emportaient des vies humaines dans les quartiers dits contestataires. Mais la peur s'est emparée de plusieurs habitants nationaux et ou étrangers à Bujumbura. Christophe Nkourounziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le procès de l'ancien chef de guerre congolais Germain Katanga, récemment libéré par la Cour pénale internationale, s'est ouvert ce mercredi à Kinshasa. Ses 5 co-accusés et lui sont poursuivis pour crimes contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel. On fait le point avec John Lendon.
Accompagné d'autres officiers et sous-officiers membres de sa milice des forces de résistance patriotique en Ituri, les FRPI, Germain Katanga, souriant et très détendu, a chaleureusement salué certains officiers présents dans la salle d'audience et a échangé avec ses avocats. Surnommé Simba, lion en Swahili, pour sa férocité lorsqu'il était à la tête des FRPI, M. Katanga, 37 ans, a été condamné par la CPI en 2014 à 12 ans de prison pour sa complicité dans l'attaque d'un village ayant fait environ 200 morts en 2003. Transféré à Kinshasa en décembre, il devait sortir de prison le 18 janvier, compte tenu du temps passé derrière les barreaux en préventive et de la remise de peine que lui avait accordée en novembre la CPI, conformément à son règlement. Ce même jour, les autorités congolaises avaient indiqué qu'il ne serait pas libéré et que des poursuites avaient été engagées contre lui.
Suite du procès de Laurent Gbagbo à La Haye devant la CPI, un premier témoin à charge a décrit comment les partisans de l'ancien président ivoirien avaient tiré dans la foule lors d'une marche des partisans de son rival, l'actuel président Alassane Ouattara. Selon l'accusation, les forces sous le contrôle de Laurent Gbagbo ont ouvert le feu sur cette marche de partisans non armés, provoquant la mort d'au moins 45 personnes. Ils auraient également violé 16 femmes et blessé 54 autres personnes, assure le procureur.
Situation tendue à Kidal, dans le nord-est du Mali. Après s'être réunie aujourd'hui, la coordination des mouvements de l'Azawad, donc l'ex-rébellion, a réclamé le départ des membres du Gatia, le groupe armé pro-gouvernemental, arrivé en masse hier dans la cité de l'extrême nord malien.
En visite au Parlement européen à Strasbourg, le président nigérian Muhammadu Buhari s'est montré gravement préoccupé par la crise libyenne. Véritable bombe à retardement stratégique, selon lui. Il a exhorté la communauté internationale à peser de tout son poids pour trouver une solution durable à cette crise.
Le président sud-africain Jacob Zuma a annoncé qu'il était prêt à rembourser une partie de l'argent public dépensé pour rénover sa résidence privée. Avec plus de 15 millions de dollars d'argent public utilisé à des fins privées, c'est l'un des plus gros scandales de ces dernières années en Afrique du Sud. Cette décision intervient quelques jours avant le début d'une enquête de la Cour constitutionnelle. Salwa Jafari.
Jacob Zuma cède à la pression. Il s'est dit prêt, dans un communiqué, à rembourser une partie de l'argent public utilisé pour rénover sa résidence privée de Nkandla. Un scandale qui empoisonne sa présidence depuis plus de 2 ans. Zuma propose toutefois que le montant qu'il doit rembourser soit fixé de manière indépendante et impartiale. Le scandale dit de Nkandla, du nom du petit village où se trouve la propriété du président, a véritablement entaché son parcours à tel point qu'il ne peut plus apparaître au Parlement sans que certains députés ne lui demandent de rendre l'argent. Sous couvert de travaux de sécurité, le président s'est offert un poulailler, un amphithéâtre ou encore une piscine aux frais du contribuable. L'affaire a pris de l'ampleur en 2014 lorsque la médiatrice de la République chargée de veiller sur l'utilisation des biens de l'État a rendu un rapport accusant Jacob Zuma d'avoir indûment bénéficié des travaux.
En Mauritanie, une initiative mondiale a été lancée pour apporter plus de transparence et d'équité au secteur de la pêche. À l'ouverture de cette conférence, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a dénoncé les pratiques nuisibles comme la surpêche, la pêche illicite et l'opacité qui caractérise encore certains revenus tirés de ce secteur.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, pour la première fois depuis qu'il est à la Maison-Blanche, Barack Obama se rend dans une mosquée ici aux États-Unis, plus précisément dans la ville de Baltimore. Selon la présidence américaine, cette visite est dans l'esprit de protection de la tradition de la liberté religieuse des États-Unis. Mylis Hegel.
Pendant ses 7 années à la Maison-Blanche, Barack Obama a visité de nombreuses mosquées dans le monde, au Caire, à Istanbul, à Jakarta, mais jamais ici aux États-Unis. Aujourd'hui, pour la première fois, il rencontrera des musulmans américains de la Société islamique de Baltimore. C'est l'une des plus grosses organisations musulmanes du pays. Des milliers de familles sont affiliées à ce centre qui comprend des maisons, une mosquée et des écoles allant du jardin d'enfants au lycée. La visite du président Obama survient alors que le nombre de crimes islamophobes est en hausse aux États-Unis. Attaques contre des mosquées ou injures envers des musulmans. Une étude du CIAR, le Conseil des relations américano-islamiques, a montré que l'année 2015 a enregistré un record de crimes islamophobes. La communauté américaine musulmane est une minorité aux États-Unis. Il y aurait environ 3,3 millions de musulmans, soit 1% de la population.
Le coordinateur de l'opposition syrienne, Riyad Hijab, est arrivé ce mercredi à Genève où des discussions de paix n'arrivent pas à démarrer. Il devait rencontrer de façon informelle l'envoyé spécial de l'ONU, Staffan de Mistura. Hier, l'opposition syrienne avait annoncé qu'elle s'abstiendrait des pourparlers, mais des diplomates des pays occidentaux soutenant l'opposition estiment que la présence à Genève de M. Hijab pourrait faciliter une décision sur l'entrée de l'opposition dans les négociations.
L'armée syrienne affirme avoir progressé en direction de la ville d'Alep, dans le nord de la Syrie, coupant la route d'approvisionnement des rebelles entre cette métropole et la frontière turque. L'intervention de la Russie et le soutien des officiers iraniens et des combattants libanais ont permis à l'armée de Bachar al-Assad de reconquérir des territoires occupés par la rébellion. L'AFP signale que c'est la plus importante avancée des troupes du régime dans la province d'Alep depuis 2012.
Au Liban, 6 djihadistes ont été tués, dont un leader local, et 16 autres arrêtés au cours d'une opération menée à l'aube par l'armée libanaise dans l'est du pays. Selon des sources militaires, un groupe affilié à Daesh planifiait des enlèvements et des attaques contre des postes de l'armée dans la région d'Aharsal, limitrophe de la Syrie.
Depuis 2014, l'armée libanaise, mais aussi le Hezbollah, allié du régime syrien, attaque régulièrement des positions des djihadistes dans l'est du Liban. Une policière israélienne blessée cet après-midi lors d'une attaque commise par 3 Palestiniens à Jérusalem-Est a succombé à ses blessures, a indiqué la police. Âgée de 19 ans, elle avait été admise dans un état critique à l'hôpital avec une blessure par balle à la tête, selon l'AFP, citant une source hospitalière. C'est la plus grave attaque anti-israélienne à Jérusalem depuis des semaines.
Politique américaine, les caucus de l'Iowa ont fait leur première victime. Après l'ex-gouverneur Mike Huckabee, c'est aujourd'hui le sénateur Rand Paul qui jette l'éponge. Ce libertarien du Kentucky n'a obtenu que 4,5% des voix au premier scrutin lundi soir. Il reste maintenant 10 candidats à l'investiture du Parti républicain pour la présidentielle de novembre.
Rappelons que Ted Cruz a remporté l'Iowa face au milliardaire de l'immobilier Donald Trump. Et le prochain vote des primaires se déroulera mardi dans le New Hampshire. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lyndon.
Le projet de loi Électrifier l'Afrique a été adopté par le Sénat américain et soumis hier au vote de la Chambre des représentants des États-Unis, qu'il a à son tour adopté. Le secteur privé américain accompagne cette initiative étatique avec des investissements évalués à 43 milliards de dollars. La Fondation Tony Elumelu a signé une convention avec le ministère ivoirien en charge de l'entrepreneuriat et de la promotion des PME ce 29 janvier afin d'apporter son expertise dans la promotion de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. En 2015, et selon Financial Afrique, 17 Ivoiriens ont fait partie de la première cohorte de 1000 entrepreneurs africains sélectionnés par le Tony Elumelu Foundation Entrepreneurship Program, un programme de la Fondation initié par le milliardaire et philanthrope nigérian Tony Elumelu. Ce programme vise à créer 10 000 start-up d'ici 2025 à travers le continent en vue de générer 1 million d'emplois et 10 milliards de dollars de revenus. Au Sénégal, la compagnie d'assurance Amza a choisi Wilmot et Associés, l'agence française d'architecture, pour développer un projet de gratte-ciel. Le bâtiment, d'une superficie de 20 000 mètres carrés, devrait atteindre 104 mètres de haut, plaçant l'immeuble au premier rang des édifices immobiliers de Dakar. Sa livraison est attendue en 2020.
C'était la Minute Éco. Merci, John.
L'actualité sportive avec Bagassi Koura en studio. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir cher Ruben, bonsoir à tous.
Vous êtes de l'Afrique de l'Ouest, mais particulièrement heureux, on dirait aujourd'hui, championnat d'Afrique des Nations et la RDC qui sort la Guinée.
Ben, je ne vous dirai pas mes sentiments, hein, mais tout à l'heure, hein, au stade Amahoro de Kigali, le match a tenu toutes ses promesses entre les Léopards de la RDC et le Sili National de Guinée, qui n'ont pu se départager pendant le temps réglementaire, un but partout. Les Léopards vainqueurs donc de la première édition ont pu se qualifier pour la finale en battant les Guinéens au tir au but. Demain jeudi, l'autre demi-finale, un choc 100% ouest-africain entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le Mali qui a sorti la Tunisie en quart de finale alors que la Côte d'Ivoire humiliait le Cameroun.
En Argentine, bagarre générale en match amical.
Oui, en Argentine, il n'y a pas de match amical. Deux classicos se sont terminés en bagarre générale entre joueurs dans un pays plutôt au règlement de compte meurtrier à l'extérieur des stades. Les images chérubaines ne cessent de passer à la télévision argentine. Des joueurs échangent des coups de poing, des coudes, frappent des adversaires à terre. Premier exemple chérubin. Dans la station balnéaire de Mar del Plata, la rencontre estivale Boca Junior River Plate s'annonçait comme une fête le 23 janvier dernier. L'arbitre a finalement exclu 5 joueurs pour tacle dangereux ou agression, distribué 9 cartons jaunes et sifflé une quarantaine de fautes. Eh bien, à partir de là, tout dégénère. Et le derby de la ville de La Plata entre Gimnasia et Estudiantes, joué dimanche dernier aussi à Mar del Plata, dans la même ville, a été suspendu. Les 25 000 spectateurs ont assisté pour le même prix à un match de football et à un combat de boxe.
Et on passe en tennis, Bagassi, pour dire que le Suisse Roger Federer a été opéré d'un genou.
Oui, le troisième joueur mondial souffre d'une blessure survenue au lendemain de sa demi-finale à l'Open d'Australie et sera absent jusqu'à la fin février. Selon son site officiel, Federer, âgé de 34 ans, a atteint la demi-finale du dernier Open d'Australie, battu en 4 matchs par le futur vainqueur, le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic.
Résultat de la NBA en quelques secondes.
Eh bien, victoire de Boston sur New York Knicks, 97-89. Miami bat a été battu par Houston Rockets 115-102 et Toronto a gagné face à Phoenix 404-97.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
ravi d'être en votre compagnie, Claire Morin-Gibourg et Chérumain Dorsil. Place au dossier du jour. Alors Claire, première escale ce soir, le Cameroun.
Et on va dans l'extrême nord du pays où un jeune de 34 ans a abandonné son travail bien rémunéré dans une grande compagnie pour aider les jeunes désœuvrés à Kousséri, à la frontière avec le Tchad et le Nigeria. Wakilidi a créé un centre de formation aux nouvelles technologies pour aider ces jeunes à trouver du travail, étant donné que le chômage les pousse souvent à aller grossir les rangs de Boko Haram. Le reportage de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka, lu ici par Nanit Talani.
Wakil Idi a réalisé il y a 5 ans à Kousséri que beaucoup de jeunes pauvres et désœuvrés allaient à la recherche de l'Eldorado suite aux promesses de gens venus du Nigeria voisin. Beaucoup sont partis, mais très peu sont revenus. Ceux qui ont pu s'échapper des griffes de Boko Haram racontent leur calvaire, comment ils étaient formés pour piller, tuer, incendier les écoles et les églises.
Après mon bac, j'ai fait 2 années blanches. Aujourd'hui, quand vous arrivez au marché, les boutiques sont vides. Des jeunes qui avaient des motos n'ont plus de motos. Mais Boko Haram a suffisamment de l'argent pour amener ses enfants vers eux. Mais tout le monde peut s'aider.
Depuis 2013, Boko Haram a enlevé beaucoup de personnes dans le nord du Cameroun, dont les 7 membres d'une famille française, un Allemand, 10 Chinois qui travaillaient sur un chantier routier. Ils ont aussi kidnappé des chefs traditionnels et des membres du clergé. Yaoundé, qui dit refuser de payer des rançons, affirme avoir négocié la libération de ses otages. Idi explique qu'avec les troubles provoqués par Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, il s'est rendu à Douala, la capitale économique, pour étudier les nouvelles technologies avec espoir de revenir pour aider les jeunes.
Je n'avais que 4 machines, 4 ordinateurs, avec un local qui va au-delà de 75 000. J'ai formé des jeunes. J'ai inséré ces jeunes dans mon entreprise et comme vous l'aviez vu, ces jeunes sont en train de travailler eux-mêmes et nous sommes en train de former d'autres jeunes.
Parmi les centaines de personnes qu'il a formées dans ce centre, écoutons Assa Abachmir, 36 ans.
J'ai fait plusieurs concours aussi au Cameroun depuis 2006, presque 10 concours. Que j'avais fait. Je n'avais reçu aucun concours. Je suis bon, je lui ai demandé si je peux venir faire la formation avec lui. Il m'a accepté. J'ai une femme, j'ai 3 enfants. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, avec lui, j'ai reçu beaucoup de.
Au moins 77 personnes ont pu trouver du travail à N'Djamena, la capitale tchadienne, qui est à moins 1 kilomètre du centre de formation. Mais les défis sont nombreux. D'après l'Institut national des statistiques, le taux de chômage dans l'extrême nord du Cameroun est de 16% et les jeunes sont les plus touchés. Idi espère aussi recevoir un appui du gouvernement et d'autres bonnes volontés, car il demeure convaincu que la lutte contre Boko Haram peut être gagnée en créant des opportunités pour les jeunes au lieu de se concentrer seulement sur des stratégies militaires.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Crise des migrants, décembre aura été le mois le plus meurtrier avec 82 décès d'enfants en Méditerranée orientale, dont un grand nombre en bas âge selon l'OIM. D'après l'UNICEF, les enfants constituent depuis janvier plus d'un tiers des migrants qui tentent la traversée dangereuse entre la Turquie et la Grèce, une proportion en forte hausse. Nathalie Barge a joint à Londres le porte-parole de l'OIM, Leonard Doyle, qui assistera à une réunion demain sur la crise syrienne.
Ce qu'on constate, c'est qu'il y a tellement de jeunes, le tiers de tous les gens qui passent à travers la Méditerranée, qui sont des enfants. Alors c'est une chose très sérieuse. Et le fait que souvent des jeunes pas accompagnés sont parents, ça les rend très vulnérables aussi.
Vous avez constaté que le mois où il y avait eu plus d'affluence d'enfants, voire d'enfants même très jeunes, était le mois de décembre et que janvier ne s'améliore pas. Bien au contraire, en janvier, il y en a eu également beaucoup.
Oui, c'est-à-dire que les affaires deviennent très pénibles pour les jeunes de ces conflits, soit le conflit en Afghanistan, Syrie, Irak. Et souvent, c'est les parents qui décident d'envoyer les jeunes pour les aider.
Alors justement, à vous parler de plusieurs milliers de disparitions, que pouvez-vous dire à ce sujet? Ces enfants, est-ce qu'on tente de les retrouver?
Europol, c'est-à-dire l'organisation de la police européenne, parle de 10 000 personnes qui ont disparu dans le système. Souvent, ça, c'est parce que les passeurs disent aux jeunes de ne pas déclarer leur âge. Parce que s'ils sont déclarés comme des jeunes, quand ils arrivent en Europe, on va les mettre dans des centres de détention.
La plupart du temps, est-ce que l'on sait où exactement ou à partir de quand ces enfants disparaissent? Dans quel pays en particulier?
On ne sait pas, mais on sait qu'il y a des jeunes en Grèce, il y a des jeunes partout en Europe. Et on a des craintes qu'ils sont prises par des criminels, des personnes avec mauvaise intention, mauvaise foi.
La plupart des migrants arrivent par la mer orientale, principalement, on imagine, de Turquie et de Syrie, n'est-ce pas?
La plupart des gens arrivent à travers l'Égée. Ils viennent de l'Afghanistan, de la Syrie et de l'Irak.
Vous avez noté également qu'il y a de plus en plus de femmes.
Oui, mais c'est-à-dire qu'à ce stade, la population change un petit peu. Les hommes sont arrivés pendant l'été ou bien l'année dernière. Maintenant, des femmes les suivent. Alors, partout, c'est une situation très, très, très difficile. L'Union européenne doit faire le focus sur les pays en conflit pour les aider à arriver à la paix. Ça, c'est la première chose. Il faut soutenir les pays autour de ces pays en conflit pour que les réfugiés et les migrants restent là-bas et ne viennent pas en Europe. Et pour ça, on a la conférence qui va se dérouler demain à Londres sur la Syrie.
Voilà Leonard Doyle, porte-parole de l'OIM, joint à Londres.
Zoom sur les élections présidentielles américaines, primaires, conventions, Super Tuesday, les grandes étapes dans la course pour la Maison-Blanche, un processus propre aux États-Unis et avec des candidats ultra médiatisés. Qu'en pensez-vous? Suivez-vous cette élection? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Une visite historique qui arrive à temps pour les musulmans aux États-Unis. Ce sont les termes de Souleymane Konaté, imam ivoirien basé à Manhattan, pour qualifier la visite ce mercredi du président américain dans une mosquée de Baltimore, dans l'état du Maryland. Une première sur le sol américain pour Barack Obama, qui saisit l'occasion pour dénoncer l'amalgame entre islam et terrorisme. Au micro de Jacques Aristide du bureau de la VOA à New York, l'imam Konaté explique l'importance de cette visite du président Obama.
Cette visite du président Obama à une mosquée, c'est une visite historique. C'est aussi arrivé à temps, pendant que les autres sont en train de condamner les musulmans. Voilà le président des États-Unis qui se rend dans une mosquée pour parler de la liberté de la religion, comme on le sait très bien, et comment elle est écrite aussi dans la Constitution américaine. Vraiment, on n'est pas surpris parce que le président américain Obama partait en faveur des musulmans, surtout la liberté de la religion ici aux États-Unis.
À travers cette visite, M. Obama voudrait aussi, selon les termes de la Maison-Blanche, dénoncer la stratégie cynique de certains ténors républicains qui alimentent les amalgames entre islam et terrorisme. Partagez-vous cet avis?
Mais bien sûr. Tout le monde sait que les réalités sont là. Tout le monde sait que l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme. Parce que d'abord, tuer un innocent au nom d'Allah, même a condamné ça. Le prophète a condamné ça. Toutes les religions ont condamné cela. Mais souvent, les politiciens ont la tendance, parce que comme il y a des frappes de terrorisme un peu partout, surtout en France, et en Faso, au Nigeria, au Niger, Cameroun, au Mali, par exemple, etc., etc., ça s'est passé un peu beaucoup partout. Et ils profitent de cette occasion pour révolter les gens contre des musulmans.
Cette visite de Barack Obama rappelle-t-elle également celle de son prédécesseur, le républicain George W. Bush, dans une mosquée de Washington, 6 jours après les attentats du 11 septembre 2001, où justement il avait dit que l'islam, c'est la paix?
Oui, bien sûr, je me rappelle, cela m'a trouvé ici, bien sûr. Ce sont des messages de la paix, donc c'est le moment, quand ça arrive, ils doivent le faire.
Souleymane Konaté, imam de la mosquée Aqsa, il était en ligne de Manhattan à New York.
Et c'est clair, on va parler cinéma ce soir. Savez-vous qu'aujourd'hui à Paris sort sur les écrans Chocolat de Roch Dizem avec Omar Sy dans le rôle principal?
Et non, je ne savais pas, vous me l'apprenez Gabi.
Et ce film retrace la carrière du premier artiste noir de France, à la belle époque bien sûr, et qui a connu un succès phénoménal avant de tomber dans l'oubli. L'historien Gérard Noiriel a écrit le livre dont est inspiré le film. Il a raconté à Anastasie Tudiech l'histoire de ce clown artiste pionnier à plusieurs titres. Et d'abord, qui est Chocolat ?
Chocolat, c'est le surnom donc, qui a été donné à un esclave cubain né à La Havane au milieu des années 1860, qui a été vendu à l'âge de 10 ans à un colon espagnol qui, quelques années plus tard, est arrivé à Paris. Il a été embauché d'abord pour porter les valises du maître clown qu'il avait embauché et ensuite qui lui-même a fait une carrière tout à fait extraordinaire à Paris.
Comment est-il passé du statut d'esclave à clown à Paris ?
C'est une question que je me suis longtemps posée parce qu'il faut bien dire qu'on n'a pas énormément d'archives. Quand il arrive en 1886, c'est le seul artiste noir de la scène française. Il est engagé pour jouer le rôle principal dans une pantomime dans l'un des lieux les plus prestigieux à Paris, qui s'appelle Le Nouveau Cirque, et ce spectacle s'appelle La Noce de Chocolat.
Qu'est-ce qui fait son succès ?
Il est, lui, à la fois une attraction parce qu'il est noir, à un moment où les Français n'ont jamais vu de noir, et il suscite le rire parce qu'on se moque des noirs, c'est une réalité, mais il y a l'autre facette des choses, c'est-à-dire son talent. Il l'utilise par le fait de ce stigmate, il le renverse, et il en fait un atout. Et comme il a un sens comique que tout le monde lui reconnaît, il s'impose aussi comme artiste dans un public qui pourtant est très exigeant.
Son succès est une réalité et c'est une réalité qui dure combien de temps ?
Il s'associe au clown blanc Fouquitte et tous les deux vont former le premier duo associant un clown blanc et un auguste qu'on trouve encore aujourd'hui dans les cirques. Et ils vont avoir un succès absolument phénoménal. Ils sont les premiers artistes filmés par les frères Lumière, ils sont les héros de la publicité, on fait des jouets, des bandes dessinées, etc. etc. Et ça dure, je dirais, une dizaine d'années pour le duo. Et pour Chocolat lui-même, le succès a duré au moins 15 ans.
Et comment a-t-il fini alors ?
Il travaille dans un cirque ambulant et finalement il meurt en 1917, donc pendant la Première Guerre mondiale, au cours d'une tournée avec le cirque Rancy, et il meurt à Bordeaux, tout seul. Sa compagne est restée à Paris, ses enfants ne sont pas là. Donc c'est une fin très, très tragique.
Vous avez revendiqué le but de créer un héros en écrivant sur ce clown Chocolat. Vous pouvez nous en dire plus, pourquoi ?
Il y a une véritable injustice à son égard à lui, mais aussi à l'égard de tous les Noirs et tous les gens, les Français venus d'ailleurs, qui ont contribué à faire ce que nous sommes aujourd'hui, à produire notre culture. Donc pour moi, ça c'est très important. Ça mériterait effectivement que cet artiste soit dans notre panthéon, je dirais, des grands hommes qui ont fait la France.
Au micro d'Anastasie Tudiech, l'historien Gérard Noiriel.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Joselle Morissin. À la console, Tien Wong. Présentation Claire Morin-Gibourg et chérubin Gabi Dorsil.
Oh, Gabi Claire, hein, comme tu veux. Merci, c'était un plaisir. Ainsi va le monde aujourd'hui. Alors, on maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, photos, vidéos, tout ce que vous voulez. Posez des questions. Mais surtout, n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com où on est ensemble, 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.